c'est que notre chair parle beaucoup. Et s'il y a bien une période pendant laquelle on doit la faire taire, c'est quand notre chair nous dit « Ah, j'ai trop chaud !» On lui dit « Je ne te demande pas ton avis, tu restes assise là parce que moi, je reste assise là. Ah, je voudrais rester plus longtemps au lit. Tu te tais, c'est l'heure d'aller adorer Dieu en commun, on se lève et on y va. Ah, je voudrais à la plage, tu te tais. » Il y a des moments où on doit savoir faire taire notre chair, d'accord ? Et comme par exemple ce matin, c'était quoi cette louange-là ? Et certains disent, c'est pas possible, va y revenir. C'était quoi ça ? Ça, c'est quoi ? C'est la chair qui donne son avis. Et c'est la chair. Et il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Hein. Parce qu'en général, on en voit un qui, ouais, gloire à Dieu, là, toutes les chairs étaient au diapason, malheureusement. Donc, c'est à chacun de décider, je vais louer mon Dieu. Est-ce que vous avez apprécié les témoignages de jeudi ? Moi, j'ai tellement apprécié. Juste un truc, c'est que j'ai tellement apprécié que je n'ai pas vu l'heure passer. Et quand on est arrivé dans le hall et que quelqu'un, j'ai dit, mais quelle heure il est au fait ? Je ne sais pas, moi, 10 heures grand max. Et j'entends, eh bien, il est minuit. Hein. Ah là là ! Alors, dans un sens, mes excuses, dans l'autre, pas trop, parce que si de temps en temps, on a une réunion qui déborde, il n'y a pas... Mais en tout cas, j'ai tellement apprécié d'entendre. J'aurais aimé voir. Alors, je vais vous dire, franchement, de toi à moi, hein, ça reste entre nous. Sauf si c'est enregistré maintenant, j'en sais rien. Mais de toi à moi, eh ben, ça a manqué d'enthousiasme. Hein ? Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Alors, on aura l'occasion de le refaire. Hein. Donc, je vous regarderai cette fois-ci. Mais je vais vous dire une chose. C'est que quand la Bible nous dit « Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent », c'est-à-dire que ceux qui sont dans la douleur, eh bien, on ne doit pas... les maintenir dans un manque d'espérance où on ne doit pas faire en sorte qu'ils soient envahis, qu'ils se laissent envahir par la douleur en continuant à pleurer une fois que le temps est passé. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour pleurer seulement. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Donc quand quelqu'un est dans une douleur, il y a une séparation physique, il y a quelque chose de grave qui se passe, eh bien, la Bible nous dit, elle ne dit pas, prêche tout ce que tu sais prêcher, en lui disant, allez mon frère, courage là, tu as la foi. Non, la Bible dit, il y a juste un temps, tu te tais et tu t'identifies à sa douleur. Et le moment venu, la parole que tu prononces est une prononce assaisonnée de sel et de grâce. Mais il y a un temps pour s'identifier à la douleur de quelqu'un et de dire, mais si j'étais à la place de cette personne-là, s'identifier. Un animal ne peut pas s'identifier à un autre être humain, mais un être humain peut le faire. Quelquefois, quelqu'un qui est dans la douleur, la seule chose qu'il a besoin, ce n'est pas une série de versets, c'est juste une présence. Maintenant, quelqu'un dit à maintenant, dis à ton voisin maintenant. Quand quelqu'un se réjouit, je ne suis pas supposée dire. Ah. Quand quelqu'un se réjouit, en général, il sourit Et il raconte, et tu sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, surtout dans le midi, c'est pour ça que ça... Si j'étais dans le nord, je comprendrais. Mais dans le midi, qu'il y ait des gens qui restent de marbre alors que quelqu'un nous raconte la gloire de Dieu. Bon, peut-être que s'ils avaient mis un peu plus de passion. Mais quand quelqu'un se réjouit, quand quelqu'un me raconte quelque chose... Eh bien, j'ai dit, ah, gloire à Dieu, c'est super. Et vous savez ce qui suscite en moi qui écoute la joie, c'est de voir sa joie. Parce qu'il est vrai que si quelqu'un me raconte la gloire de Dieu, alors tu comprends, j'étais dans une situation. En général, cette partie-là du témoignage, elle est bien faite. Oh, j'avais des problèmes. Oh. Oh, oh là 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 là, j'en pouvais plus, si tu savais. Mais mon âme était déchirée. Et au moment de raconter l'intervention du Dieu Tout-Puissant, eh bien, Dieu est intervenu. Et Dieu est intervenu, et ben voilà quoi. Voilà. Maintenant, ben, ça va bien. Voilà. Gloire à Dieu. Il y a juste comme un décalage entre ce que l'on raconte de ce que les ténèbres ont fait dans ma vie, et là, oh, ah, j'y suis, ah, mais oh là là, c'était difficile, et j'avais mal, ah, j'avais mal, si tu savais ce que j'avais mal. Eh bien, j'ai senti la puissance de Dieu, et ça va bien, tu regardes, je marche, tu vois, je marche. Maintenant, si cette même passion-là, on la garde jusqu'au bout du témoignage. On dit, gloire à Dieu. J'ai senti cette puissance de Dieu là. Et tout d'un coup, j'ai su que j'étais guérie. Eh bien, je dis, regarde, j'ai marché. Regarde, je marche. Eh bien, l'autre, qu'est-ce qui se fait? Celui qui entend, qu'est-ce qui se passe? Il marche avec nous. Il se réjouit avec nous. Donc, c'est juste pour vous dire que oui, c'était bien d'entendre les témoignages. Mais je n'ai pas eu un sentiment d'ambiance de victoire, comme à mon avis l'Église devrait avoir en pareille situation. Je m'adresse à la mauvaise Église. Hein? Alors, je vais vous dire, on aura l'occasion de recommencer parce que, franchement, il y en a qui n'ont pas donné leur témoignage, et parmi ceux qui ont donné leur témoignage, il y en avait qui avaient encore plus de témoignages à donner. Donc, franchement, on aura l'occasion de réentendre, etc. Et vous aurez l'occasion de vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et vous aurez l'occasion de vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ah, voilà, c'est ce que je veux entendre, il est là mon frère, c'est ce que je veux entendre après chaque témoignage. Allez, Jean chapitre 1, verset 17. Alors la dernière fois, nous avons vu ce verset-là, la Bible dit, Dieu nous a donné la loi. Donc la loi est quelque chose qui est venu de Dieu. Les « tu fais, tu ne fais pas », c'est venu de Dieu. Ce n'était pas par l'intermédiaire de Moïse. L'ensemble des commandements qui formaient la loi n'était pas simplement des « tu ne fais pas », c'était des « et tu feras, et tu feras, et tu feras, et tu feras, et tu feras ». Et la Bible nous dit c'est Dieu qui avait donné cet ensemble de lois afin que ceux qui la reçoivent réalisent qu'ils ne pouvaient pas tenir ces commandements. Et gloire à Dieu, la période dans l'histoire de l'humanité a changé, et la Bible nous dit, ça s'est fait par la venue de Jésus-Christ, mais la grâce a à voir avec l'initiative de Dieu et la gratuité de ce que Dieu donne. La grâce, c'est Dieu prend l'initiative et Dieu donne gratuitement. Et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous avons, si vous vous rappelez ou si vous avez réécouté le message de dimanche dernier, je vous expliquais que la loi, c'est je l'ai fait, je fais et je ne fais pas. Et si je réussis suffisamment à faire et à ne pas faire, alors j'arriverai à la hauteur pour recevoir de Dieu toutes les bénédictions. Et cette manière de concevoir notre relation avec Dieu met l'accent sur moi. Quelqu'un dit moi. C'est-à-dire moi je fais, moi je suis à la hauteur, moi je suis suffisant, moi et moi et moi. C'est pas étonnant qu'on les appelle des grenouilles. Non, certains ne savent pas. Les Belges, c'est les frites. Les Anglais, miséricorde, on en a parmi nous. Ce sont les roast beef. Tout a à voir avec la nourriture dans ce monde humain. Et nous, c'est les grenouilles, les Français. Avec ce moi et moi. Jésus est venu et tout d'un coup, il dit, eh bien, au lieu de chercher à recevoir de Dieu en étant conscient de toi, tu vas recevoir de Dieu en étant conscient que ce que Jésus a fait a plu au Père et par ta foi en Jésus, tu vas tout recevoir ce que le Père te donne et ce sera gratuit. Ce qui veut dire que, ben c'est très simple, hein, pour recevoir les promesses, on a les yeux sur soi ou on a les yeux sur Jésus-Christ. Je répète, on a les yeux sur soi ou on a les yeux sur Jésus-Christ. Quand on est empêtré dans un problème, on ne peut pas avoir les yeux sur soi, ce que l'on fait nous, pas simplement ce qui nous arrive. Quelquefois, les gens disent, j'ai des problèmes. Et tout ce qu'ils pensent, ils ressassent les problèmes. Ils pensent et ils méditent sur les problèmes. Et il y en a d'autres qui croient être spirituels, en méditant sur ce qu'ils sont en train de faire pour régler le problème. J'ai confessé suffisamment de versets, j'ai prié suffisamment, j'ai donné suffisamment de dîmes à Dieu. Et c'est une autre forme d'œuvre, et ça n'est pas la foi. Je me souviens que quand j'étais à l'école biblique, bien sûr j'ai entendu ce qui traitait de la foi. J'ai appris à recevoir de Dieu combien. Je bénis Dieu pour ce temps-là. Mais quand j'ai mis en pratique, au fur et à mesure, j'ai mis en pratique, à un moment, j'appliquais tellement cette méthode que tout le poids de l'exaucement dépendait uniquement de ce que j'avais suffisamment fait ou pas. Et je dois vous dire que là, j'ai pris peur. Parce que j'étais devenue tellement consciente de moi que j'avais perdu la conscience de Jésus-Christ. Tout avait été fait en Jésus-Christ. Et la seule chose que j'avais à faire, c'est un effort pour entrer dans le repos de Dieu. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le Seigneur a ajouté un autre morceau de révélation où l'a mis en exergue, et ça a été la grâce. Et nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler que nous vivons sous la grâce. Regardez avec moi dans Proverbes. Proverbes chapitre 4. La fin du verset 20 à 26. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Pas à toi, pas à ton problème, aux paroles. Nous sommes en train de parler de la foi. Comment recevoir quelque chose qui nous a été donné gratuitement et qui est à l'initiative de Dieu. Ici, et vous savez, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ce qui veut dire que il y a dans la pensée de Dieu, Il n'y a pas une seule personne ici qui ne peut pas recevoir de Dieu. Vous êtes né de nouveau? Alors, dans ces cas-là, toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ sont toutes à chacun de nous. Pourquoi il y en a qui reçoivent plus que d'autres? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, aujourd'hui, on va en voir une. À mon avis, c'est une des plus courantes. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Bah, il faut prendre le temps d'aller écouter ces paroles. Ensuite, il est dit, prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire que quand tu as une difficulté, Dieu a quelque chose à te dire. Ce qu'il te faut dans une difficulté, dans un problème, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de santé, c'est une parole. Une parole de Dieu. Ça commence par là et le reste suit. Quand tu as des difficultés au travail, il y a des tas de choses qui ne se règlent pas par la santé et l'argent. Tu as une difficulté au travail, tu as une difficulté avec un de tes enfants. Qu'est-ce qu'il te faut ? Une parole. Une parole. Le premier réflexe que l'on devrait avoir, nous les chrétiens, c'est d'aller chercher une parole de Dieu. Tu dis, ben justement, comment est-ce que je trouve une parole de Dieu ? Ben déjà en lisant la Bible, c'est plein de paroles. Et puis ensuite, en écoutant des messages sur le sujet. Dieu a toujours quelque chose à te dire dans ta situation. Dieu n'est jamais sans parole. La Bible nous dit, il est le Verbe. C'est ce que Jean nous dit, non? Il est dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça ne suffit pas que le pasteur ait ses yeux sur la parole. Ça ne suffit pas que ton père et ta mère aient les yeux sur la parole. Il faut que tu aies les yeux sur la parole. Et parents, apprenez à vos enfants à avoir leurs yeux sur la parole. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc c'est comme cela que l'on garde la parole, dans le fond de notre cœur, pas dans le fond de notre réflexion intellectuelle, dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre esprit, au plus profond de nous-mêmes, au point que la parole et nous sommes un. Et comment on le fait? Justement, en étant attentif aux paroles de Dieu, en étant attentif à ses discours et en faisant en sorte que la parole reste devant nos yeux. Il est dit, alors c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Va chercher une parole de Dieu quand tu as un problème. Et le Seigneur s'assurera que tu trouveras la bonne. Je prêche mieux que ce que vous réagissez ce matin, je ne veux pas dire, mais... C'est la vie. C'est la vie où? Bien, là où la mort a commencé à agir dans ta vie. C'est-à-dire que si la mort a commencé à agir dans une relation, mets la parole de Dieu, ça créera la vie. Si la mort a commencé à agir dans ton corps, mets la parole, ça mettra la vie. Si la mort a commencé à agir dans tes finances, trouve la parole, ce sera la vie. Et il est dit, c'est la santé pour tout leur corps. Une autre version dit, c'est la médecine. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Ben parce que dedans, il y a cette parole qui est la puissance de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. On en reparlera plus tard. Et il est dit ensuite, qu'est-ce qu'il est dit dans cette version? Le verset suivant. S'il vous plaît, voilà, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Alors, je trouve ce verset très intéressant. Je suis la seule. Vous ne me rassurez pas là. Il est dit que tes yeux regardent en face. Pourquoi ? Parce qu'il est possible, image numéro 1, que tes yeux ne regardent pas en face. Il est possible que tes yeux regardent en haut. Vous savez, ceux qui regardent au ciel. Il est possible que les yeux regardent en bas, dans un problème. Il est possible que les yeux regardent, et alors, t'en penses quoi, toi ? Et toi ? Et on n'arrête pas de chercher des conseils à droite, à gauche, de parler à droite et à gauche de tous nos problèmes. Et le Seigneur dit, si tu veux la vie dans ta situation, il va falloir que tes yeux regardent en face. Pourquoi ? Parce qu'en face, tu es supposé avoir la parole. Celle qui contient la vie, celle qui est ta solution. Mais il y a encore quelque chose qui est vraiment très intéressant dans ce verset. Je ne sais pas si vous l'avez vu là. Hein. Non, ce n'est pas mon chien, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il est dit encore en retour dans ce verset là ? Que tes yeux regardent en face, ça ne vous trouvez pas étrange qu'il ait après parlé des paupières ? Hein ? Il est dit, certains ils se réveillent là. Combien de fois avons-nous lu ce verset et hop là ! Il est dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit vers toi. Bah, ma question est dans quel sens peuvent aller tes paupières ? Hein ? Ok, dans quel sens ? Dis-moi, bah, certains, justement, ils sont là. Bah, elles peuvent faire ça. Il est dit, fais en sorte qu'elles soient droit en face. Pourquoi ? Parce que ça parle d'être focalisé sur la parole de Dieu. Cela veut dire que cette parole qui est devant moi, qui a le potentiel de mettre la vie dans ma situation, eh bien, je dois me concentrer sur cette parole-là. C'est exactement ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11. Je suis en train de vous expliquer comment recevoir de Dieu. Comment recevoir de Dieu ? Quelque chose qui nous est donné gratuitement. Bien évidemment, c'est par la parole. Hébreux 11, versets 24 à 27, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, c'est-à-dire qu'il a refusé l'identification avec le monde. Il a refusé l'identification avec un monde païen. Ton fils, ta fille, devenu grand, devra lui aussi à un moment choisir de refuser de s'identifier avec le monde et personne ne pourra prendre cette décision à sa place. Il est dit aimant mieux être maltraité. On dit non mais il va pas bien lui. Il faut savoir pourquoi avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ensuite il est dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés. Une autre version dit « considérant ». Il avait les yeux fixés sur la rémunération future. Une autre version dit « sur la récompense future ». C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que ce verset nous dit ? Ce verset nous dit que Moïse, à un moment de sa vie, a dû choisir de continuer à vivre à la manière du monde ou alors de vivre à la manière de Dieu. Pour qu'il puisse vivre à la manière de Dieu, il n'a pas pu avoir un regard qui était divisé. il a dû avoir un regard fixé sur la récompense future. La récompense future, c'est l'exaucement de ta prière. La récompense future, c'est cette promesse qui se matérialise. C'est la promesse de la santé qui se matérialise dans ton corps. La promesse future, c'est la récompense. La récompense future, c'est la promesse que Dieu te sort de tes problèmes et te bénit tant que tu es une source de bénédiction pour ta génération. Et la Bible dit que ça peut se faire uniquement en ayant les regards fixés. Sur quoi ? Quand tu lis une promesse de la parole de Dieu, tu vois quelque chose. Parce que tu médites, tu vois. Si tu médites sur des versets sur la santé, alors ces versets, tu vas commencer à te voir en parfaite santé. Si tu médites sur des versets sur le pardon, à un moment, ces versets vont devenir un avec toi et ils vont devenir tangibles en toi. Ça va devenir une telle réalité que tu ne te verras pas autrement que pardonner. Tu sais ce que ça veut dire? Quand la promesse devient un avec toi, ça veut dire que tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de voir tes enfants, tu changes ta façon de voir ton travail, tu changes ta façon de voir ta vie sur terre, tu changes ta manière de sélectionner tes priorités. Quand cette parole devient un, c'est-à-dire que quand tu acceptes d'avoir les yeux sur la récompense, quand tu acceptes d'avoir les yeux sur la parole, alors tu ne peux plus les avoir sur toi. Tu ne peux plus les avoir sur ton problème. Rappelons-nous, nous avons changé de dispensation. La loi est venue par Moïse, mais il y a quelqu'un qui est venu, c'est Jésus. Et nous sommes sous la grâce. Nous recevons gratuitement, mais il faut avoir les yeux sur le Seigneur. Et le Seigneur dit, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les yeux sur ce que Jésus a fait, d'avoir les yeux sur la parole, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit écrite. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Abraham quand il a voulu, avant, ou je dirais, pour donner à Abraham une terre promise, il a fallu d'abord que Dieu lui donne de la voir. Quand le Seigneur a amené Abraham sur une haute montagne, il l'a amené sur la terre promise, et puis il lui a dit, tu sais, d'accord, tu es ici, tu es dans cet exaucement, j'avais promis de te faire, de donner une terre promise à tes descendants, à toi et à tes descendants. Et Abraham est passé sur la terre promise, il est passé. Il est arrivé au mont Moria, et là, quand il est arrivé là, le Seigneur a dit, tu vois, tout ce que tu vois, et je suis allée sur ce mont Moria, et quand la météo est clémente, on peut voir au-delà d'Israël, on voit les pays qui sont alentour. Et le Seigneur a dit, de là où tu es, de là où tu es en Dieu, le Seigneur voudrait te montrer tout ce qui t'appartient. La Bible nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si nous prenons conscience de qui nous sommes, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, que nous sommes enfants de Dieu, que nous faisons partie d'une race, comme la Bible dit, d'une race différente. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nature spirituelle différente, qui est celle de Dieu. Nous avons autorité en Christ. De là où nous sommes, le Seigneur voudrait nous faire voir tout ce qu'il nous a donné pour accomplir notre destinée. Et le Seigneur a dit, si tu arrives à voir ce que je te donne, tu l'auras. Parce que tout ce que tu vois, tu l'auras. Mais tu ne peux pas avoir les yeux sur ce que tu vois qui t'appartient et en même temps sur tes problèmes. Image numéro 2. Alors bon, je ne sais pas s'il fait l'imbécile ou quoi, mais image numéro 3. Vous savez comment ça s'appelle, ça, ce problème oculaire ? Exotropie, plus exactement. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui regarde dans une direction et l'autre, précisément, qui regarde sur le côté. Hormis le fait que ce problème peut créer de la migraine, mais pire, le pire, c'est une vision double. Chez l'enfant, lorsque les deux yeux ne parviennent pas à fixer la même image, écoutez bien, le cerveau peut apprendre à reconnaître l'image la plus forte. Peut-être que c'est celle-là l'image la plus forte, à force de le regarder, et ignorer l'image la plus faible de l'œil amblyope. Bonjour pour la traduction. De cette manière, c'est-à-dire que quand quelqu'un a ce genre de problème-là, eh bien, il y a un des deux yeux qui va être le plus fort. Si c'est l'œil qui regarde sur le côté, à force d'utiliser cet œil-là qui regarde sur le côté, le cerveau va ignorer celui qui regarde en face au point que l'œil ne finira par ne plus fonctionner. Si ce phénomène devient permanent, l'œil que le cerveau ignore ne verra jamais correctement. Cette perte de vision, elle est appelée amblyopie. L'amblyopie est la conséquence de la vision d'un œil qui est constamment supprimé et de l'autre œil qui devient dominant. Vous croyez que ça a un rapport avec la foi, ce que je dis là ? Alors, parmi les remèdes, il y a plusieurs remèdes. Par exemple, l'éducation pour corriger la vision. Il y a la chirurgie. Mais il y a un autre remède qui est de mettre un pansement adhésif sur l'œil dominant pour forcer l'enfant à utiliser l'œil le plus faible. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé quand Ézéchias était gravement malade ? Et il s'est tourné vers le prophète et il a dit au prophète, écoute, interviens en ma faveur et donne-moi une parole de Dieu. Et la parole que Dieu a donnée, c'est, écoute, mets l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Le Seigneur n'était pas en train de lui dire, voilà, tu peux rien changer, je te dis, c'est comme ça, je t'annonce le futur, tu vas mourir. Le Seigneur était en train de lui dire, tel que tu es parti, tu vas mourir. Ce qui veut dire, si tu n'acceptes pas cela, eh bien dans ces cas-là, les choses, ton futur est encore brillant. Ézéchias, sachant que ça n'était pas juste, la Bible nous dit, il s'est tourné vers le mur et là, il a prié Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui a donné 15 ans de plus. Il y a des moments où tu dois savoir quel œil, il est temps que tel œil arrête de regarder ton problème, arrête de te regarder toi. D'abord, j'ai fait un très beau sermon sur l'apitoiement, vous rappelez ? Il est encore sur le site. Mais combien de chrétiens n'ont pas les yeux sur la promesse de Dieu et en même temps sur leurs problèmes ? Combien de chrétiens n'ont pas les yeux sur... Ah oui, ils ont prié, mais en même temps, ils ont les yeux sur eux. Soit parce qu'ils sont dans l'apitoiement, soit parce qu'ils sont sous la loi. Est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je dis ? Est-ce que une fois que nous avons trouver les versets bibliques, que nous les confessons dans le repos sur notre situation et nous attendons que la parole de Dieu agisse dans notre situation. Nous sommes au repos. Quand il m'est arrivé de sentir des symptômes qui cherchaient à s'attacher à mon corps, qu'est-ce que je fais? Je mets un verset biblique devant mes yeux, je le lis, je laisse ce verset pénétrer dans mon cœur, je parle ce verset par la foi et je sais que ce verset est en train de faire son boulot parce que la Bible me dit que Jésus, la parole, est le sauveur. Et je laisse le sauveur me sauver. Je laisse la parole me sauver. Je laisse la parole faire son travail une fois que je l'ai libéré par la foi. Ce qui veut dire, je ne cherche plus à savoir ce qui se passe dans mon corps. Mon corps me dit j'ai mal, je m'en moque. Ça m'est égal. Je suis tellement absorbée par ce que la parole de Dieu dit. Mais vous ne saviez pas combien de fois j'ai vaincu. J'ai eu je ne sais combien d'occasions d'être malade. Bien malade. J'ai eu des occasions de m'effondrer financièrement. Comme chacun ici. Ne me regardez pas comme si j'étais... Cette église a eu l'occasion de s'effondrer financièrement avec des attaques financières que nous avons subies. Qu'est-ce que nous avons fait? À chaque fois, nous avons mis la parole devant nos yeux. Nous avons confessé la parole et nous avons refusé de souffrir d'extropie. Nous avons refusé cette vision divisée. La Bible nous dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il nous est dit dans le livre de Jacques? Je vous le lis. Ici, par exemple, dans le domaine de la sagesse, ça peut être dans n'importe quel domaine. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Ça, c'est la grâce. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme, celui qui doute, c'est sûr que si tu as devant tes yeux la parole et que cette parole ne t'absorbe pas entièrement et qu'en même temps tu considères tout ce qui ne va pas, en même temps, tu considères tous tes problèmes. En même temps, tu te considères toi pour évaluer si tu es assez spirituel. Le doute va s'installer. Et il est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. Tu me remets la photo, s'il te plaît. J'ai hâte que nous ayons notre bâtiment pour avoir des écrans devant moi. On va en avoir de partout, des écrans. Et pour que je puisse voir ce qui est projeté. Dans quel sens il regarde? Comment est sa vision? Sa vision est trouble. Ce que nous voyons de la parole de Dieu est trouble si en même temps nous avons un œil sur nous-mêmes ou sur les symptômes. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. C'est quelqu'un qui est inconstant. Vous vous rappelez de Pierre? C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, il a vu Jésus, il s'est laissé absorber par cette parole de Jésus qui lui a dit, eh bien, viens. Sur cette parole, alors que la tempête avait commencé à souffler, Pierre n'a même pas tenu compte de ce qui était en train de se passer. Vous savez, il ne fallait pas beaucoup de temps, il ne fallait pas 4 heures pour parcourir cette distance entre Pierre et Jésus. Pierre a entendu la parole de Dieu. Il avait cette promesse, il avait une récompense future de vivre un miracle et il s'est laissé porter par la parole de Dieu. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher, il avait les yeux sur la récompense, il avait les yeux sur la parole vivante, il avait les yeux sur le Seigneur, il avait les yeux sur la promesse. Et la Bible nous dit qu'à un moment, au lieu de garder le regard droit devant toi, que tes paupières se dirigent droit devant. Ce n'est pas ça. C'est droit devant. Droit devant. La Bible nous dit qu'il marchait vers sa promesse. Il marchait vers son exaucement. Dès qu'il a commencé à regarder autour de lui, il a vu la hauteur des vagues, il a vu le vent souffler qui envoyait l'écume contre le bateau et contre lui. Il a entendu, ça n'est plus « viens, viens et marche » qu'il entendait, c'est « à partir de ce moment-là, il a commencé à couler. Vous savez, quand le Seigneur nous garantit qu'il nous a donné la solution, il garantit qu'il a entendu notre prière, que l'exaucement, oui, la réponse est oui et amen en Jésus-Christ, c'est la seule chose que je considère, que je garde devant moi. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et pour croire, mes amis, il faut décider une bonne fois pour toutes sur quoi vais-je avoir les yeux, vers quoi vais-je avoir les yeux fixés. Parce que la Bible dit, celui qui a le cœur partagé, il n'obtient rien. Vous comprenez que quand on se lance dans une aventure de la foi, ce n'est pas juste un essai que l'on fait. Ah, je vais voir si ça marche. Ce n'est pas ça. C'est le cœur entier. Quand nous louons Dieu, c'est le cœur entier. Quand nous servons Dieu, c'est le cœur entier. Quand nous croyons Dieu, c'est le cœur entier. C'est-à-dire, je vais tout risquer sur cette parole, mais il faut que je la voie, qu'elle soit devant moi. Amen. Alors moi, je crois qu'il y a de belles victoires. C'est ça, c'est cette parole qui crée en nous, cette détermination. Dieu attend, il a hâte, il est dans l'expectative de manifester des exaucements dans notre vie. Et ça ne dépend pas de lui, ça dépend de moi. Pas de moi, de moi. Je reste à ma place. Jésus, vous comprenez cette parole-là de Jean-Baptiste ? Il faut que je diminue et il faut qu'il croisse. Ou il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Quand lui augmente à mes yeux, je diminue à mes yeux. Oh là 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 là. Voilà la foi. Le regard de la foi, il regarde droit devant. Droit devant. Et quand les amis disent « tu n'y arriveras pas », tiens, je te montre un article de journal qui dit que je regarde droit devant. Quand le médecin dit « attendez, regardez un petit peu cette radio, là je vois rien de différent », je regarde droit devant. Et là, je vois les poumons qui sont en bon état. Là, je vois les intestins guéris. Là, je vois le compte bancaire qui est rempli. Là, je me vois partir en vacances. Là, je vois ce bébé qui est là. Là, je vois ce mariage qui réussit. Là, je vois mon fils délivré de la drogue. Et la Bible dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Tout ce que tu vois, tout ce que tu vois. Le truc, c'est que personne ne peut voir à ta place. Ça, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Mais gloire à Dieu de ce que le Seigneur dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous du trône de la grâce. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que ce message-là vous encourage à regarder droit devant, à ne pas regarder la parole de Dieu avec des yeux surpris, avec des yeux découragés, mais droit devant. Cette parole que vous regardez est celle qui va vous donner la détermination de continuer à regarder. Et la Bible nous dit, c'est-à-dire la parole ne ment pas. Vous vous rappelez de ce qu'il est dit? Allez, je vais terminer avec 2 Corinthiens chapitre 4, parce que je ne peux pas juste vous laisser comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est le bonus. 2 Corinthiens, voilà, 4, 17. Il est dit, car nos légères afflictions du moment, nos légères, ça ne veut pas dire produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. C'est-à-dire que cette légère affliction dans laquelle tu es, c'est quelque chose qui est visible. Mais si tu sais utiliser cette affliction à la gloire de Dieu, il est dit, nous regardons les choses qui sont invisibles, parce que les invisibles sont éternels. Les invisibles, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est encore au stade de la promesse. C'est ce que tu vois, mais qui n'est pas encore manifesté. C'est la parole de Dieu. Et il dit, toutes les autres afflictions, tu peux marquer dans le calendrier quand ça a commencé, et tu peux parler à ton problème, et tu peux dire à ton problème, tu as une fin. Tu sais, ton problème, il ne va pas durer pour l'éternité. Hein? Juste une question, dans quel état seras-tu à la fin? Seras-tu dans la foi? Sera-ce la fin du problème parce que tu l'auras vaincu dans la foi? Ou est-ce que tu te seras laissé écraser par ce que Dieu appelle une légère affliction? Mais la Bible nous dit, on ne peut pas regarder les deux en même temps. Nous regardons les choses invisibles. Nous regardons ce qui appartient à la gloire de Dieu. Nous regardons la parole de Dieu et non pas ce qui est passager. Non pas ce qui est passager. Répète après moi, mes problèmes sont passagers. Dans la parole, Dieu m'a déjà donné la solution. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la nature d'un vainqueur. J'ai la nature d'un vainqueur. Et ce que je vois doit s'aligner sur la victoire de Christ qui est en moi. Dans le nom de Jésus, circonstances changées. Conformez-vous à la parole de Dieu. Parce que je vois la victoire. La parole sur laquelle j'ai les yeux fixés ne ment pas. Dans la parole, je vois mes solutions. Je garde les yeux sur cette parole. Ils ne sont pas sur moi, ils sont entièrement sur la parole. Je peux tout. 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 Par Christ qui me fortifie, tandis que j'ai les yeux sur la parole. Voilà ce que le Seigneur dit ce matin. Parce qu'il insiste pour vous donner ce qu'il a prévu pour vous. L'année prochaine, il y a ceux qui, parmi nous qui ne seront plus au même endroit. Tu dis les autres. Ben, si tout le monde met la parole en pratique, on y sera tous. Moi, je ne serai plus au même endroit parce que j'ai l'intention de pratiquer ce que je prêche. Je le fais. Et rien ne saura me priver de cette destinée que j'ai en Dieu. Et toi, est-ce que tu vas accepter que quelque chose qui est passager te prive de ta destinée en Christ? 4 personnes qui disent non. Sans détermination, je répète, je vous donne une autre occasion. Autre opportunité. Vas-tu laisser quelque chose de temporaire te priver de ta destinée en Dieu? Je répète, vas-tu laisser quelque chose de temporaire te priver de ta destinée en Dieu?
Non.
Vas-tu te laisser quelque chose de temporaire te laisser te priver de ta destinée en Dieu?
Non.
peu mieux. Gloire à Dieu. Alors, vous pourrez réécouter ce message-là, vous inspirer, écoutez-le avec vos enfants et surtout, pratiquez-le. Ceux qui le souhaitent, nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes. J'espère que...